Au mois dernier, nous avons vu ensemble la croissance spirituelle du juste. Vous savez, je disais que naturellement, lorsque un bébé vient au monde, ce bébé, le but n'est pas qu'il reste bébé. Le but, c'est quand même qu'il puisse grandir et qu'un jour, il devienne autonome. Voilà, donc, dans la vie spirituelle, il en est de même. Lorsque nous naissons spirituellement, le but de Dieu, c'est de faire en sorte que nous puissions grandir, que nous puissions devenir matures. Comme vous avez bien compris, le mois dernier, quand on parle de la croissance spirituelle, ce n'est pas de grandir en taille ou en poids, mais c'est juste s'édifier. C'est être, devenir un édifice solide, devenir un homme, une femme de Dieu, qui sache s'appuyer sur Dieu, qui sache marcher avec Dieu, qui arrête les bouderies en tout genre et qui accepte justement de devenir adulte dans le Seigneur. Et donc ce matin, j'aimerais toujours poursuivre dans cette lancée et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce matin les deux dimensions du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie du juste. Les deux dimensions du Saint-Esprit. Vous savez que Jésus, avant de remonter au ciel, alors qu'il avait accompli l'œuvre pour laquelle il était venu sur la terre, Jésus a demandé à ses disciples, mais c'était presque un ordre. Il leur avait dit, écoutez, je sais que maintenant vous avez l'impression que vous pouvez faire les choses par vous-même. Mais il va leur dire, ce n'est pas le cas. Il va falloir que vous restiez à Jérusalem, que vous attendiez de recevoir le Saint-Esprit qui va vous communiquer la puissance dont vous aurez besoin pour pouvoir être mes témoins, non seulement ici à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit ces choses à propos parce que lui-même, quoi qu'étant pleinement Dieu et pleinement homme, la Bible nous dit que Jésus lui-même s'est dépouillé justement de sa gloire divine, il s'est dépouillé de sa capacité divine, il s'est dépouillé volontairement et il a eu besoin, lui, sur la terre aussi, du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir son ministère. Et si Jésus est pour chacun d'entre nous la voie par excellence, nous devons justement considérer la Bible, ou du moins ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le Saint-Esprit. Nous avons peut-être entendu parler du Saint-Esprit. Il y a certains qui ont peur du Saint-Esprit, il y a d'autres qui aiment le Saint-Esprit, il y a certains qui se disent, mais c'est quoi le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Ce matin, mon but n'est pas de vous parler simplement de la personne du Saint-Esprit, mais du rôle justement du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau, qui a rencontré Jésus, qui l'a accepté comme son sauveur et son Seigneur. Et s'il y a parmi nous des amis qui nous ont rejoints ce matin, ne vous inquiétez pas, la porte elle est grande ouverte, vous aussi vous pouvez justement entrer dans cette belle famille de Dieu et Dieu va vous accueillir avec beaucoup de joie parce que c'est une famille illimitée. Nous sommes justement à la période de tout illimité. C'est une famille illimitée, il y a de la place pour tout le monde. Donc ne vous dites pas, moi je ne suis pas digne. Non, ici on n'est pas de religieux, c'est peut-être pour une religion qu'on n'est pas digne. Parce qu'on ne rentre pas dans ses cordes. Mais en ce qui concerne le christianisme, tout le monde devient digne en Jésus. C'est ça qui est formidable. Quoi qu'on ait fait dans notre passé, quoi que nous soyons aujourd'hui, lorsque nous l'acceptons ce Jésus-là comme sauveur et Seigneur, nous recevons la vie et nous entrons dans la belle famille de Dieu. Les deux dimensions du Saint-Esprit. Nous allons lire un premier texte dans l'évangile de Jean. Voici ce que Jésus nous dit, ce sont les paroles de Jésus. Il s'adresse à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît point et ne le connaît, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus est en train de donner une révélation extraordinaire à ses disciples. Vous savez, c'est normal, les disciples étaient habitués à Jésus. Ils ont vécu pendant plus de 3 ans avec Jésus. Ils ont mangé la même nourriture que Jésus. Ils ont bu le même mauvais vin. Ne dites pas ça à nos amis du Moyen-Orient. Hein? Ils sont loin de Bordeaux, c'est pour ça qu'il n'est pas terrible le vin là-bas. Plus vous êtes de Bordeaux, c'est pour cette raison qu'à Limoges, on n'en produit pas. Mais vu qu'on est maintenant dans la même région que Bordeaux, on peut se targuer de dire, mais maintenant nous sommes une région du vin aussi. Eh bien oui, on nous a englobés dans la région du vin. Jésus va leur faire une révélation, il va leur dire, écoutez, ne soyez pas tristes, parce que les disciples étaient tristes à l'idée que Jésus meurt et qu'ils ne voient plus Jésus. Et donc Jésus va lui dire, écoutez, il faut que vous sachiez une chose. Moi, si vous m'aimez, la première chose, c'est que vous allez garder mes commandements. Et si vous gardez mes commandements, moi, je vais prier le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Et là, on est un peu embêté, on se dit, waouh, mais si ce n'est pas le même. Alors, le mot « autre » qui est employé ici, dans le mot grec, il y a 2 termes qui désignent le mot « autre ». 2 termes. Le premier terme, c'est le terme « alos », c'est-à-dire « autre de la même nature ». Et le deuxième terme, c'est « hétéros ». Et là, le mot qui est employé ici, c'est le mot « alos ». Donc, c'est un autre consolateur, c'est-à-dire un consolateur de la même nature que moi. Il n'y a aucune différence entre ce consolateur qui va venir et moi, c'est le même que moi. Il ne sera peut-être pas en chair, mais c'est le même. Et quand on dit « hétéros », c'est-à-dire un consolateur d'une autre nature. Mais là, c'est « alos », donc un consolateur de la même nature. Il dit donc, ne vous inquiétez pas. Il faut que vous sachiez que le Saint-Esprit qui va venir, il va demeurer en vous juste le dimanche. Il est venu pour demeurer éternellement. Il est venu pour demeurer éternellement. Et il va dire, cet esprit, c'est un esprit de vérité. Et parce qu'il est l'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Quand il dit le monde, il est parce que le monde ne le voit point et ne le connaît pas. C'est parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, ils ne peuvent pas savoir qui est le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas connaître. Ils auront l'impression que c'est une barbarie. Hein? Donc, il va leur dire, ne vous inquiétez pas, il va demeurer avec vous et il sera en vous. Ce sont les 2 dimensions du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, dans la vie du juste, dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit avec nous. Et le problème que nous avons aujourd'hui, bien évidemment, c'est lorsque nous naissons de nouveau, comment faire justement pour grandir? On se dit, ben oui, est-ce que nous allons nous-mêmes bricoler une vie pour faire en sorte que nous puissions aller de l'avant? Si souvent nous sommes tentés en tant qu'êtres humains, parce que avant justement de naître de nouveau, nous avions nos habitudes quand même, hein? Nous vivions à notre façon. La Bible dit qu'avant de connaître Dieu, l'être humain vit selon ses propres pensées, selon ses penchants. Il vit comme il a envie. Il ne tient pas compte de Dieu parce qu'il ne peut même le connaître dans cet état-là. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous avons vu au mois de décembre que la nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance physique. C'est une naissance qui est spirituelle. Et nous l'avons vu sur la base du texte, du moins du dialogue ou de l'entretien que Nicodème a eu avec Jésus dans Jean 3, où Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu saches que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume. Autrement dit, Jésus était en train de lui dire, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux même pas être conscient qu'il existe le royaume de Dieu. Et plus tard, Nicodème va lui dire, mais moi je ne comprends pas ton histoire de la nouvelle naissance. Moi je suis vieux. J'imagine Nicodème, du haut de, je ne sais pas, peut-être il avait 70, 80 ans. Et il dit à Jésus, mais écoute, moi je suis vieux. Est-ce que je peux encore entrer dans le ventre de ma mère pour naître? Et là, Jésus lui dit, ah, c'est là qu'il y a un problème. Parce que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le fait de naître naturellement. Il dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu avait déjà annoncé par le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, où il dit, je vais vous purifier avec une eau pure, je vais purifier vos souillures, et je vais vous purifier de vos idoles. Et ensuite, il dit, je vais vous donner un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, et il dira, et dans cet esprit nouveau, je mettrai mon esprit. Dans quel but? Afin que vous m'obéissiez. Et donc Nicodème qui enseignait Israël ne savait même pas ce que c'est la nouvelle naissance. Et Jésus va lui apprendre ce jour-là que la nouvelle naissance, elle est spirituelle. Et donc, tout ce que Dieu fait avec nous est d'abord spirituel. Vu que Dieu est esprit, même lorsque Dieu fait venir les choses à l'existence physique, les choses, elles sont d'abord spirituelles. Parce que figurez-vous que Dieu a créé les choses invisibles et visibles. Et donc, Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu saches que la nouvelle naissance, elle est spirituelle. Et si elle est spirituelle, comment faire en sorte que quelqu'un qui a un esprit, qui est né de nouveau, qui a été régénéré par le Saint-Esprit, comment faire en sorte que celui-ci puisse vivre en harmonie avec une âme, quoique sauvée, mais qui n'est pas encore restaurée, et avec un corps qui est habitué à un style de vie? Comment faire pour vivre? C'est là qu'intervient le Saint-Esprit. C'est là qu'intervient, parce que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous n'avons aucune capacité, nous n'avons aucune force. C'est là que le Saint-Esprit vient, parce que quand le mot grec ici, dans le premier texte que nous avons lu, quand il dit l'autre consolateur, en grec c'est parakletos. Et parakletos, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire aide, ça veut dire conseiller, ça veut dire avocat, ça veut dire intercesseur, ça veut dire consolateur, ça veut dire beaucoup de choses. Nous en français on dit juste consolateur. Mais le Saint-Esprit est venu pour accomplir toutes ces choses en nous. Et comment peut-il les accomplir? Nous allons voir, justement. Le premier point. Mais il a trop vite, hein? Ah ben oui, quand même. Le Saint-Esprit en nous. Je vois que la maestro, elle est... Mais c'est bien. Le Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire en nous? Est-ce qu'il est venu juste pour que nous puissions parler en langue? Est-ce qu'il est venu juste pour que nous puissions prophétiser? Pour que nous puissions peut-être prêcher? Parce que la prédication et le parler en langue, ça ne nous permet pas de vivre, vous avez remarqué. Hein? Quand on a des difficultés, notre parler en langue, il ne sert plus vraiment à grand-chose, si ce n'est pour parler à Dieu. Le Saint-Esprit en nous, il est venu faire quoi? Et j'ai déjà abordé justement ce premier point. Le Saint-Esprit, c'est d'abord le sceau de la nouvelle naissance. Comme je vous disais dans Ézéchiel, Dieu va dire, mais voici, je vais mettre mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans le texte qui suit, le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'auteur de la nouvelle naissance. Le texte qui suit, c'est ce que je vous disais, que Jésus a dit à Nicodème. Il lui a dit, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. C'est vrai que quand on entend eau ici, on est tenté de penser qu'il s'agit du baptême. Il ne s'agit pas d'abord du baptême ici. Il s'agit de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Comme Jésus avait dit à ses disciples en son temps, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui nous met à part. C'est l'instrument divin par excellence. C'est ce que Dieu utilise pour faire toutes choses. C'est pour cette raison que par ailleurs dans la Bible, il est dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire c'est l'outil que l'esprit utilise pour pouvoir travailler. Sans la parole, le Saint-Esprit est inopérant. Quels que soient les efforts que nous pouvons faire, sans la parole, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Le Saint-Esprit, au commencement, se mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu a créé toutes choses, il était là, il se mouvait. Le Saint-Esprit ne faisait rien. Mais quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit s'est mis en action. La parole, c'est ce qui donne au Saint-Esprit les arguments nécessaires de pouvoir œuvrer dans les enfants de Dieu. C'est pour cette raison que la première chose que nous devrions prendre au sérieux, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes qui négligent la parole de Dieu, comme j'aime à le dire, lorsqu'on néglige la parole de Dieu, ni plus ni moins que Dieu que nous négligeons lui-même. Parce que quand vous ne faites pas fi à la parole d'un homme ou d'une femme, c'est que vous méprisez cet homme ou cette femme. Donc nous avons besoin... Vraiment, il est important pour chacun d'entre nous de comprendre que la parole, c'est l'élément que le Saint-Esprit utilise pour nous faire naître de nouveau. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, nous savons qu'un jour, nous avons entendu parler de Jésus. C'est la parole de Dieu qui nous a amenés à Jésus, oui ou non? Avant que le Saint-Esprit n'œuvre en nous, un jour, il y a eu la parole qui a été annoncée, qui a été prêchée, et sur la base de cette parole qui a fait écho dans notre cœur, quoique cœur mort pour à Dieu, mais elle a fait écho, et c'est sur la base de cet écho-là que le Saint-Esprit est venu faire son œuvre en nous pour nous faire naître de nouveau. Il va falloir qu'on entende d'abord cette parole. C'est le début du commencement de tout. Donc il va dire qu'il faut naître de la parole et du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume, pour avoir accès dans le royaume, pour devenir un citoyen du royaume. Sinon, si tu ne nais pas de la parole et du Saint-Esprit, tu es à l'extérieur du royaume. Quels que soient les efforts religieux que tu pourras faire, tu seras à l'extérieur du royaume. Parce que la nouvelle naissance implique simplement qu'un homme, une femme accepte la parole de Dieu et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe le reste. Et vous remarquerez que quand nous sommes nés de nouveau, il n'y a pas eu une vague qui s'est passée dans notre vie, il n'y a rien eu. C'est seulement au-dedans de nous où nous avons vraiment ressenti que les choses ont changé. Si vous aviez des petits cheveux gris comme les miens, ça n'a pas changé de couleur, ils sont restés gris. C'est à l'intérieur que tout se passe. Et donc, la première partie de l'esprit en nous doit nous faire comprendre que nous sommes là, frères et sœurs, parce que la vie chrétienne, elle se vit à l'intérieur d'abord. Ce n'est pas d'abord à l'extérieur. Moi, je suis allé dans certains pays dont je ne citerai pas le nom, mais les gens se font amadouer parce qu'ils croient que la vie chrétienne est à l'extérieur et ils courent vers des hommes, ils courent vers des femmes, ils cherchent des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sortis de leurs anciennes habitudes. Parce que nos anciennes habitudes, c'est quoi? Quand on a un problème, pour ceux, je sais que vous ne le faites plus, mais souvent les gens, ils vont voir qui? Ils vont voir le médium. Dis-moi un peu, j'ai peur là pour les 2 années à venir. Que va-t-il se passer dans ma vie? Lui-même, il est médium, il ne sait pas ce qui va se passer dans sa vie. Hein. Mais il va quand même te dire ce qui va se passer dans ta vie. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, les gens ont peur. Oh, je vais vous dire, c'est un peu comme ça en Afrique. Les gens courent derrière les gens. Et ils se font avoir, ils se font spolier. Parce qu'ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui leur dise quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu est venu habiter en eux. Ils sont devenus l'habitation de Dieu parce qu'ils ont accepté Christ. Ils sont nés de nouveau, comme Dieu l'a annoncé dans Ézéchiel, que mon esprit viendra en vous. Il l'a accompli le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Oh, je ne suis pas en train de dire que le ministère prophétique n'est pas un bon ministère. Non, loin de moi cette pensée. Mais ce n'est pas non plus le but de ma prédication ce matin. Le ministère prophétique, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, n'a rien à voir avec le ministère prophétique dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait que 3 catégories d'individus qui avaient l'onction de Dieu. Il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs et les rois. C'est pour cette raison que même le roi, lorsqu'il n'avait pas l'onction prophétique, il était obligé d'aller voir le prophète pour lui demander ce que Dieu veut pour la population, pour le pays. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Personne ne doit vous dominer parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Personne ne doit vous montrer un mauvais chemin parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise de faire, non! Dieu a donné les ministères juste pour vous aider justement à entretenir le Saint-Esprit qui est en vous. Ne suivez pas les choses à gauche, à droite. Enracinez-vous dans la parole. Vous courez parce que quelqu'un fait ceci. Jésus vous a dit, les gens vont faire les miracles. Ils vont faire, les gens ils vont même voir les trucs occultes pour faire des miracles. Et puis il y en a même qui sont des escrocs. Moi j'ai appris qu'il y a même un pasteur qui mettait une grosse moquette et en dessous il mettait des fils électriques pour simuler l'onction. Et quand les gens, il avait son DJ, son magnétiseur qui était dedans, et quand le pasteur disait l'onction, lui, il mettait une grosse décharge électrique. Et tous les gens qui étaient là, ah, et bien voilà. Les chrétiens nous aimons ça, nous n'aimons pas la simplicité, parce que nous courons vers des chimères, des choses, non. Frères et sœurs, voilà, restons établis, nés de la parole. Il est l'auteur, le Saint-Esprit est l'auteur de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu. Et le Saint-Esprit en nous, que fait-il encore? Le point d'après, il est là pour le témoignage intérieur. La Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Rappelez-vous, vous qui êtes les grands lecteurs et lectrices de la Bible, lorsque Jésus s'est fait baptiser au Jourdain, la première chose après le baptême que Jésus a entendu, c'est quoi? C'est le témoignage. Le témoignage. Le ciel sait tout. Et il y a une voix qui s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Quand tu n'as pas ce témoignage-là, comment veux-tu vivre la vie chrétienne? Est-ce que ce témoignage, tu pourrais l'avoir de l'extérieur? C'est impossible, mon frère. C'est impossible, ma sœur. Pas de l'extérieur. Ce témoignage, il est en toi. C'est en toi. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à qui? À notre? Qui est en toi. C'est à ton esprit que l'Esprit rend témoignage, que tu es enfant de Dieu. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu es convaincu que tu es enfant de Dieu, comment peux-tu dire « Dieu m'a abandonné » ? Comment peux-tu dire « Dieu n'est plus avec moi » ? Comment quelqu'un qui est en toi peut t'abandonner ? Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? C'est pour ça que l'apôtre Paul va découvrir quelque chose par le Saint-Esprit. Il va dire « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ ». Il dit « Rien, ni les choses présentes, ni les choses à venir ». Il dit, même les persécutions ne peuvent pas nous séparer de lui, parce que lui est en nous. L'Esprit de Christ est en nous, le Saint-Esprit. Et donc nous sommes ses enfants. La première chose, c'est le témoignage. Quand nous naissons de nouveau, c'est ce témoignage que le Saint-Esprit atteste dans notre cœur ou dans notre esprit pour nous dire, vous êtes désormais enfant de Dieu, vous lui appartenez. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez lui faire confiance. Et aussi le Saint-Esprit, il va faire quoi? Il va permettre, parce que nous sommes d'abord esprit, il va permettre que toutes les bénédictions de Dieu qui sont en nous puissent jaillir. C'est ce que Jésus va dire. Il va dire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ou de son esprit. C'est la même chose. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus leur dit, écoutez, il faut que vous sachiez une chose. Quand l'Esprit viendra en vous, vous allez avoir la centrale de Dieu en vous. Hein? Comme quand on parle de la centrale d'achat. Vous avez la centrale de Dieu en vous. C'est pour cette raison que dans Éphésiens, Paul va dire, les bénédictions que vous avez de Dieu, elles sont d'abord des bénédictions spirituelles. Vous les avez en Christ dans les lieux célestes. Vous les avez en Christ. Les bénédictions sont en nous. Dieu ne nous a pas fait incomplets. Lorsque nous sommes nés de nouveau, il a mis tout le programme de croissance, tout le programme de bénédiction, tout le programme, la joie, la paix, l'amour, tout est en nous. Maintenant, comment faire en sorte que ces éléments qui sont en nous puissent être matérialisés dans notre vie de tous les jours? C'est ça qui implique un processus de croissance que nous avons vu il y a un mois. Et donc, nous avons besoin de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui est la source et qui fait jaillir de notre sein des flots, des fleuves d'eau vive. Donc la vie chrétienne, le but, c'est qu'à l'intérieur, nous soyons forts pour que nous puissions impacter l'extérieur. Nous ne pouvons pas impacter l'extérieur avec l'extérieur. Non, c'est à l'intérieur. Nous sommes forts et nous impactons l'intérieur. L'extérieur, pardon. Le Saint-Esprit, voilà. Il témoigne. C'est de lui que vont jaillir les sources. Le Saint-Esprit, la diapo d'après. En nous, que peut-il faire encore, le Saint-Esprit? Il est notre force dans l'adversité. Il est notre force dans l'adversité, parce qu'il est au-dedans de nous. Vous avez remarqué que les épreuves viennent toujours de l'extérieur. Eh oui, c'est pour cette raison que Jésus va nous dire, maintenant que vous êtes nés de nouveau, sachez que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est où? Donc, quand celui qui est dans le monde vous attaque, là, vous devez compter sur qui? Celui qui est en vous. Donc, il va dire, voici, Jésus, là, on parle de Jésus maintenant. Lorsque Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste au Jourdain, on dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il vint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Vous connaissez cette histoire. Vous savez, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. On sait comment le diable a tenté Jésus. On sait comment, sur quelle base le diable a-t-il tenté Jésus. La première chose sur laquelle il l'a tenté, c'est sur son identité d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Satan va toujours venir vous tenter sur votre identité. Il va vous faire croire que parce que vous avez péché hier, vous n'êtes plus digne d'être enfant de Dieu. Mais c'est le mensonge. Lequel des parents aurait puni son fils parce qu'il a commis une bêtise? Est-ce que vous croyez que le Dieu de la Bible, le Dieu qui est le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu d'amour, après nous avoir sauvés, il va nous condamner? Si Dieu fait ça, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu ne peut pas nous condamner après nous avoir sauvés. Non! C'est pour ça qu'il dit, si tu as péché, n'attends pas. Vas-y, rentre dans ta chambre, dans ton lieu secret. Et demande pardon à ton Père de tout ton cœur. Il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Mais Satan, lui, va te faire croire qu'il y a 2 semaines en arrière, parce que tu as refusé une bonne tranche de fromage à ta belle-mère, parce que c'est ton fromage préféré, ça y est, Dieu ne t'aime plus. Donc vous croyez que nous avons un Dieu yo-yo. Un temps il nous aime, un temps il ne nous aime plus. Il nous aime en fonction de ce que nous faisons. Alors que la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort parce que nous... La Bible dit que Christ est mort pour les impies, c'est-à-dire pour les pécheurs, les hommes et les femmes de mauvaise vie. Alors si Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs, combien à plus forte raison aujourd'hui, quand lui nous avons été justifiés par Dieu, celui-ci nous aimera toujours. Je ne suis pas en train de vous inciter à aller faire n'importe quoi, mais c'est pour dire que si nous n'avons pas ces certitudes dans notre vie, dans notre cœur, il nous sera difficile d'avancer dans notre vie chrétienne. Parce que nous vivrons toujours dans la culpabilité. Jésus était rempli, il est allé. C'est la première dimension. Avec cette dimension, Jésus est allé dans le désert, il allait faire quoi? Il allait affronter le diable. C'est rempli du Saint-Esprit que Jésus est allé dans le désert pour affronter le diable. Et souvent, on croit que, mais non, c'est avec l'extérieur qu'on peut... Non, c'est rempli du Saint-Esprit. Lorsque celui-ci a été baptisé, les choses ont été vraiment synchronisées parce que c'est Jésus, il fallait qu'il rentre dans son ministère. Et là, il va aller dans le désert et le diable va l'attaquer de toutes les manières et Jésus va résister au diable. Et nous allons le voir plus tard, c'est en sortant du désert que Jésus va revêtir la deuxième dimension du Saint-Esprit. Est-ce que vous n'avez pas remarqué dans votre vie que lorsque, par la grâce de Dieu, avec la force du Saint-Esprit, vous résistez aux épreuves, vous en sortez grandi? Dans la vie spirituelle, il ne faut pas esquiver les montagnes, il faut les affronter. Une montagne qui est esquivée, c'est une montagne qui réapparaîtra plus tard. Frères et sœurs, Jésus était rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert, c'est ainsi qu'il a vaincu Satan. Le Saint-Esprit, en nous aussi, c'est l'onction intérieure. La Bible nous dit, je vous ai mis la référence, la Bible nous dit que l'onction qui est en nous, donc le Saint-Esprit qui est en nous, nous enseigne toutes choses. Et Jésus dira d'ailleurs dans l'évangile de Jean que justement le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, quand il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité et la vérité nous rendra libres. Donc lui nous enseigne toutes choses. Mais d'où nous enseigne-t-il toutes ces choses? De l'extérieur ou de l'intérieur? Non! C'est d'abord de l'intérieur. Et quand, comme moi, je suis en train de vous parler ce matin, je suis en train simplement de vous confirmer ce que le Saint-Esprit doit déjà vous avoir dit à l'intérieur. C'est pour ça que Jacques va dire, il faut que vous sachiez une chose, c'est que la parole de Dieu a été plantée en vous. Et Dieu va l'annoncer déjà dans Jérémie. Quand vous lisez Jérémie 31, vous voyez, Dieu dit déjà, je ferai une alliance nouvelle avec Israël et avec Juda. Il dit, ce ne sera plus une alliance comme celle que j'avais avec eux, l'alliance à laquelle ils ont bien évidemment failli. Il dit, c'est une alliance nouvelle. Il dit, je mettrai mes lois sur leur cœur. Et donc Dieu a mis sa parole. Donc quand nous prêchons la parole comme ce matin, c'est juste pour que nous puissions nous rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie, ce que Dieu a déjà planté dans notre cœur. Et donc Jésus est celui qui est l'onction à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit et qui nous enseigne toutes choses. Et le Saint-Esprit aussi est celui qui nous soutient dans la prière. Vous avez remarqué qu'il y a des moments où vous ne pouvez même pas prier. Vous avez beau avoir l'envie, mais vous ne pouvez pas. Et là, vous posez des questions, mais comment je vais faire? Je n'arrive plus, je ne sais plus prier. On peut voir un frère, une sœur, on dit, mais je n'arrive plus à prier, je ne comprends pas. Je suis comme fatigué, comme paralysé. Et là, la Bible nous dit que, quelquefois, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, lui, il va faire quoi? Il va nous aider à intercéder par des soupirs, comment? Inexprimables. Mais c'est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Si tu n'es pas conscient de lui à l'intérieur, comment est-ce que tu peux vivre ça? La vie chrétienne, c'est d'abord dedans. Et le Saint-Esprit, c'est aussi notre guide. C'est la promesse que Dieu nous a faite. Dans le psaume 32, lorsque David dit à Dieu, lorsque je me suis tué, c'est-à-dire quand j'étais pécheur, hein, avant que même tu ne me pardonnes, mes os se consumaient. J'étais éloigné de toi. Et il dit, mais lorsque tu m'as pardonné, et Dieu va lui dire, mais maintenant que je t'ai pardonné, maintenant que tu es revenu à moi, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il dit, je serai ton conseiller et j'aurai un regard sur toi. Donc Dieu est en train de dire, le Saint-Esprit en toi, il va te conduire, il va te montrer comment tu dois marcher. Mais si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, comment veux-tu que celui-ci te montre comment tu dois marcher? C'est impossible, mon frère, ma soeur. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qu'on doit vivre par nous-mêmes, non. C'est une vie d'association avec un Dieu qui est venu habiter en nous par l'Esprit. Et nous devons avoir une communion, une relation avec lui. C'est pour cette raison que Jésus va sommer les disciples dans Jean 15 en disant, « Si moi, lui et le cep, nous nous sommes les sarments, il dit, un sarment ne peut rien de lui-même s'il ne dépend du cep, s'il ne reste attaché au cep. » Vous avez remarqué qu'une branche d'arbre n'a de vie que parce qu'elle est attachée au tronc. Si le tronc ne fait pas monter la sève, parce que c'est le tronc qui est lui responsable d'aller chercher tous les nutriments nécessaires, et c'est la sève qui va couler dans la branche, qui va donner la vie à la branche. Mais si la sève ne coule plus, qui est l'image du Saint-Esprit ici, la branche va mourir. Et quand la branche meurt, Jésus dit, elle ne sert plus à rien, elle va être jetée au feu, elle va sécher, elle va être jetée au feu. Donc nous ne pouvons pas vivre dès que nous sommes séparés de Jésus. Nous ne pouvons pas vivre, tout comme les chrétiens ne comprennent pas que la protection de Dieu, Dieu n'a pas une protection pour chacun, non. Dieu a une protection pour son corps, le corps de Christ. C'est pour cette raison que quand vous quittez l'assemblée, vous vous exposez vous-même. Vous croyez que vous faites plaisir à un pasteur parce que vous êtes... Non, le corps de Christ, c'est Jésus qui a dit « je bâtis mon église ». C'est pour cette raison que lorsque Paul allait à Damas pour attaquer les chrétiens de Damas, Jésus est apparu, il lui a dit, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Paul n'avait jamais vu Jésus physiquement, il ne l'avait jamais salué, il ne lui avait jamais parlé. Mais pourquoi Jésus va dire à Paul, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Qui Paul persécutait, n'est-ce pas les chrétiens ? Donc quand tu persécutes les chrétiens, le corps de Christ, c'est la tête qui est persécutée, oui ou non ? On dit que Christ est la tête et nous sommes le corps, oui ou non ? Nous sommes les membres du corps de Christ. Ta protection est dans l'assemblée. Ta protection est dans le troupeau. Il faut que tu comprennes ça. Ce n'est pas une option. Comme je disais il y a un mois, j'ai dit, vous ne m'avez pas choisi, je ne vous ai pas choisi. C'est Dieu qui nous a mis ensemble. C'est la volonté de Dieu. Et pour cette raison, nous devons rester les uns avec les autres. Et le seul moyen de pouvoir grandir, c'est en se frottant les uns aux autres. C'est comme ça qu'on grandit. Moi, je peux vous dire, hein, ce n'est pas une critique. Mais j'ai travaillé avec des enfants uniques, ce n'est pas facile. Ben oui, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Partager, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ça. Et j'avais travaillé avec une qui a reconnu, elle a dit, non, moi j'ai du mal. Parce que quand j'ai commencé à me confronter aux autres, j'avais l'impression que j'étais dans un autre monde. Parce que chez moi, j'étais un œuf. Mes parents me protégeaient tellement. Mais parce que, voilà... Mais quand je suis allé à l'extérieur, je ne comprenais pas certaines réactions parfois. J'ai dit, ben c'est comme ça. Quand on ne se confronte, on ne se frotte pas aux autres, on ne peut pas avancer. Nous avons besoin de cela, frères et sœurs. Donc le Saint-Esprit va nous guider. Et nous allons voir le deuxième point. C'est le Saint-Esprit avec nous. Et nous allons prendre maintenant cette dimension du Saint-Esprit avec nous. Nous allons voir Jésus maintenant, il est allé, comme je vous ai dit, conduit par le Saint-Esprit au désert. Il est tenté, il a la victoire sur Satan. Et regardons comment Jésus va sortir, va revenir, retourner du désert. C'est ce que nous allons lire maintenant. Jésus revêtu maintenant de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. La dimension intérieure, c'est celle qui nous permet de vivre la vie, d'avoir une relation avec notre Père Céleste et d'être fort. Parce que vous avez remarqué, la force dont nous avons besoin, c'est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Et Jésus, quand il a vaincu l'ennemi, il est désormais revêtu. Il a le manteau du Saint-Esprit. Il a l'onction du Saint-Esprit. Pour quel but ? Premier point, pour un service efficace. C'est pour ça. Il est revêtu pour un service efficace. Donc, on est revêtu, on est rempli pour vivre la vie chrétienne. On est revêtu pour servir. C'est deux choses différentes mais complémentaires. Le Saint-Esprit est en nous pour nous aider à vivre une vie qui n'est pas la nôtre. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu, elle n'est pas la nôtre. Il nous aide à vivre cette vie. Et le Saint-Esprit avec nous, c'est la dimension qui nous permet maintenant de rentrer dans notre service avec efficacité, qui nous permet de travailler, qui nous permet de travailler avec sérénité, comme l'apôtre Pierre pouvait déclarer lorsqu'il est allé voir Corneille. Hein, vous connaissez cette histoire. Et il va arriver, il va dire, mais vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il a oint. Ça dit que d'esprit, ça dit cette onction maintenant c'est pour le service. L'onction ne peut pas nous faire vivre. C'est pour cette raison que vous voyez, les gens peuvent faire les miracles, mais ils vivent comme des cochons. Il y a deux dimensions. Vous pouvez voir quelqu'un, il est là quand il prêche. Les gens sont, il y a des choses extraordinaires qui sont faites par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit honore la parole de Dieu. Mais quand vous allez regarder la vie de cette personne-là, parce qu'elle néglige la dimension intérieure qui est la plus importante, sa vie est une catastrophe. Et je lisais dans un livre un jour, une femme justement, son mari au XXe siècle, je ne cite pas le nom, c'était un évangéliste important aux États-Unis. Et ils faisaient des campagnes sous des chapiteaux. Et un jour, ils étaient en train de faire une campagne et des choses extraordinaires se passaient alors que son mari prêchait. Et là, cette femme, à la fin de la réunion, elle était avec sa fille, voilà, dans la cour comme ça, et puis elle entendait des femmes qui discutaient, qui disaient « Oh là là, la femme de cet homme doit être heureuse. Ah, cet homme, sa femme doit être heureuse. C'est un homme excellent, regardez ce qu'il fait. Sa femme doit être heureuse. » Et puis elle était là, elle écoutait ce que ces femmes disaient. Elle doit être heureuse. Et puis, il y a une femme qui s'est approchée pour lui parler. Et puis, cette femme lui a dit, « Ah, vous devez être heureuse, madame, votre mari est excellent. » Elle a juste fait ça. Façon de dire, vous ne le connaissez pas. Venez à la maison. Vous ne le connaissez pas. Les miracles se finiront. Eh bien oui, mais quand nous sommes à la maison là, eh bien c'est pas vous qui le supportez. Hein. Vous voyez, cette femme, elle voyait comment son mari était adulé à l'extérieur par l'onction, mais à l'intérieur, par l'onction intérieure, cet homme était vide. Et vous savez, cet homme, à la fin de sa vie, il a reconnu une chose. Il a dit, j'ai gagné le monde, mais j'ai perdu Dieu. Frères et sœurs, ce qui nous garantit notre salut, ce n'est pas ce que nous faisons. Dieu ne nous a pas sauvés pour ce que nous faisons. Ce qui garantit notre salut, c'est notre filiation que nous avons eue par héritage. Par adoption. Dieu nous a adoptés par le Saint-Esprit en Christ. C'est ça qui nous donne d'être enfants de Dieu. Nous sommes sauvés parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons les miracles. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons des choses extraordinaires. Non, nous sommes sauvés parce que nous sommes enfants de Dieu. Et ce qui fait que nous soyons enfants de Dieu, ce n'est pas le miracle qui va finir sur la terre, ce n'est pas les actions merveilleuses que nous allons accomplir qui cesseront sur la terre, mais c'est le Saint-Esprit, comme nous avons lu, qui demeure en nous éternellement. C'est lui qui va nous conduire dans la cité céleste, c'est lui qui va nous amener dans la gloire de Dieu, c'est lui qui viendra prendre l'église, c'est lui qui va nous donner le corps, transformer le corps de gloire pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs, pour dire: Jésus, nous voici maintenant dans ta céleste patrie, nous sommes avec toi. C'est le Saint-Esprit, parce que lui est en nous éternellement. C'est le sceau éternel. Ce n'est pas un miracle. Aucun miracle ne peut donner. Non, aucune béatitude, rien, frères et sœurs. Si c'était le bien qui nous introduisait dans la présence de Dieu, il y a certains chrétiens qui ne seraient même pas dans la présence de Dieu, parce que nous ne sommes pas les meilleurs pour faire le bien. Nous ne sommes pas même ceux qui ont plus de moyens pour justement faire ce bien. C'est le Saint-Esprit, le sceau, il est venu habiter en nous pour nous amener dans l'éternité. C'est pour ça qu'il demeure en nous éternellement, pas pour un temps, pour nous amener dans l'éternité. Donc Jésus va être revêtu de cette puissance pour accomplir son ministère. Pendant 30 ans, Jésus était en train de scier le bois avec papa Joseph. Mais quand Jésus est revenu du Jourdain, il est allé dans le désert, il est reparti du désert, il a commencé. Les boiteux que Jésus voyait tout le temps, désormais ils pouvaient marcher, parce que l'onction était désormais sur lui. La deuxième dimension, nous avons besoin, frères et sœurs, besoin de comprendre ces choses. Service efficace. La deuxième chose, le Saint-Esprit va nous protéger. Il va nous protéger des dangers extérieurs. Il faut que vous sachiez, nous avons deux intercesseurs. Nous avons un qui est intercesseur sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Celui, écoutez, quand Satan nous attaque, il est invisible, nous ne le voyons pas. Mais qui, pensez-vous, repousse les assauts de Satan contre nous? Mais c'est le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas. Il dit à Satan: pas touche. Il y a la marque de Jésus sur celui-ci. Il y a la marque de Jésus sur celle-ci. Pas touche. Pas touche, esprit de mort, tout comme tu es passé outre les maisons des Hébreux, là en Égypte, maintenant que eux, ils ont plus que la marque du sang des boucs, ils ont la marque du sang de Jésus. Pas touche, ne touche pas. C'est le Saint-Esprit qui nous défend contre ces dangers. C'est pour ça qu'il va dire: l'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Il est là, ton ombre, c'est-à-dire il est invisible, mais il est là. Il est ton soutien. Il est celui qui est devant toi pour dire: non, je repousse les assauts, parce que toi, tu ne les vois pas. Mais à l'intérieur, c'est à nous de le faire. C'est pour ça que Dieu va dire: il y a une chose que tu dois garder par-dessus tout, c'est ton cœur. Parce que ton cœur, c'est là où il y a tout. C'est là où il y a tout. Frères et sœurs, on va conclure. Juste pour rappeler, vous vous rappelez de cette histoire des enfants d'Israël. Lorsque Dieu va sauver ce peuple du désert, de l'Égypte, de l'esclavage, ce peuple va être sauvé. Et à un moment, Dieu va demander à Moïse de faire construire le tabernacle. Et lorsque le tabernacle va être construit, la Bible nous dit que la gloire va remplir le tabernacle et une nuée va recouvrir le tabernacle. C'est toujours les deux dimensions. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas, en ce moment-là, parce que Christ n'était pas encore venu, il n'était pas né de nouveau, les Moïse. Ils étaient justifiés par autre chose que justement par la foi. Ils étaient justifiés par la loi. Et donc, Dieu ne pouvant pas revenir en eux habiter, parce que Christ n'était pas encore manifesté, et donc Dieu va dire: mettez-moi dans une caisse. Il va dire: pour que je sois au milieu de mon peuple. Et Dieu, il y aura toujours les deux dimensions. Il y aura des dimensions, eux ils vont avoir un Dieu extérieur. C'est pour ça que l'ancienne alliance, c'est une relation extérieure. Ils n'avaient pas une relation intérieure. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, il est rarement parlé de l'amour. Parce que l'amour est venu avec Christ. Il est rarement parlé de l'amour. Parce que c'était des hommes et des femmes qui étaient morts à Dieu par leur esprit. Et comment voulez-vous qu'ils manifestent l'amour? Mais nous, la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous connaissons aussi l'histoire de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était quelqu'un de vaillant. C'était un homme sur qui Jésus pouvait compter, malgré ses hauts et ses bas. Mais Jésus pouvait compter sur lui. Mais avant la crucifixion déjà, Oh, l'apôtre Pierre, lorsque Jésus va annoncer qu'il faut qu'il meure parce que c'est lui le Messie pour le péché de l'humanité, Pierre va lui dire, n'en déplaise à Dieu, tu ne mourras pas parce que moi, je vais être premier ministre. Il avait déjà son plan. Eh bien non, et Jésus va lui dire, mais Pierre, tu vas me renier. Il dit, non, moi, Pierre, je ne renie pas. Et quand Pierre va être confronté justement à la situation, il va renier Jésus. Et quand il va renier Jésus, il avait beau pleurer après, il l'avait déjà renié. Mais vous allez remarquer que Jésus, lui, n'a pas renié Pierre. Non, il n'a pas renié. Mais regardez maintenant, j'ai pas mis les textes, mais considérons maintenant le Pierre après la Pentecôte, le jour de la Pentecôte même, lorsque les disciples vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont avoir les deux dimensions en même temps. Ils vont être remplis et revêtus en même temps. Regardez ce qui va se passer, le même Pierre, les hommes religieux qui lui faisaient peur, c'est à ces hommes-là à qui il va annoncer l'évangile de Jésus avec assurance, avec autorité, à tel point que 3000 personnes vont se tourner vers le Seigneur. Où est-ce qu'il a eu cette force? Où est-ce qu'il a eu ce courage? C'est le Saint-Esprit. Quand il n'avait pas le Saint-Esprit, il pouvait renier Jésus. Mais avec le Saint-Esprit, on avait beau le frapper, on avait beau lui dire, Pierre, tu ne prêches plus au nom de Jésus, tu ne fais plus rien en ce nom-là. Mais dès qu'il allait voir ses frères et ses sœurs, les murs tremblaient par la prière. Les murs tremblaient par la prière. Et quand la prière était terminée, le même Pierre à qui on avait défendu de prêcher au nom de Jésus, il ressortait, il annonçait le nom de Jésus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, j'ai mis, le Saint-Esprit n'est donc pas une simple expérience, mais le Dieu qui conduit l'Église de Christ et la vie de chaque croyant. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire et nous devons être conscients de ces deux dimensions. Nous ne pouvons pas vaincre l'extérieur si nous négligeons le Saint-Esprit qui est en nous. Et nous ne pouvons pas non plus servir Dieu si nous négligeons le revêtement de l'Esprit qui doit être sur nous, qui doit nous permettre de servir Dieu. Nous ne pouvons pas. Comment voulez-vous connaître les choses de Dieu? La Bible dit que les choses qui sont cachées appartiennent à Dieu. Et il va dire, mais les choses qui sont révélées sont pour nous. Alors, mais comment voulez-vous connaître la révélation si nous négligeons le Saint-Esprit qui est en nous? Cette dimension, le Saint-Esprit en nous et avec nous, pour être un enfant de Dieu équilibré, un chrétien équilibré. Que Dieu soit béni.